Imaginez un peu la scène. C'est d'une absurdité vraiment saisissante. En fait, c'est comme si une personne se présentait au tribunal après des années d'accusations complètement bidons.
Oui, avec un dossier en béton, hyper préparé pour prouver son innocence absolue.
C'est ça. L'ambiance est hyper lourde, il y a un silence total, et là, les portes s'ouvrent avec un fracas énorme.
On s'attend au juge solennel, quoi?
Bah oui. Mais au lieu d'un juge en robe noire qui vient s'asseoir calmement pour lire un verdict clair, le juge débarque au milieu d'une véritable tornade.
Une vraie tempête.
Et il commence à donner un cours magistral d'astrophysique et de météorologie. Aucun verdict, aucune mention des charges.
Rien du tout.
Juste une description vertigineuse de la mécanique du ciel. Et bien c'est exactement la situation complètement déroutante dans laquelle se retrouve le personnage biblique de Job.
Et cette rupture totale des attentes, c'est vraiment au cœur du texte. On attend la conclusion d'un procès hyper intense qui dure depuis des dizaines de chapitres.
C'est interminable, ouais.
Et on se retrouve soudainement plongé dans une sorte d'observatoire cosmique balayé par les vents. C'est fou.
Et c'est ce mystère littéraire et théologique majeur qu'on va explorer aujourd'hui. On va s'appuyer sur les notes de cours hyper détaillées du docteur John Walton.
Des notes vraiment passionnantes d'ailleurs.
Totalement. Et notre objectif pour cette plongée en profondeur aujourd'hui, c'est de décortiquer l'apogée du livre de Job, donc les chapitres 38 à 40 environ.
Pour essayer de répondre à la grande question, en fait.
Voilà. Pourquoi la réponse de Dieu, qu'on attend depuis si longtemps face à la souffrance de Job, ignore-t-elle complètement la question de la justice? Son serment d'innocence est resté en suspens, la tension est à son comble.
Et la seule réponse, c'est cette fameuse tempête. Alors, il faut d'ailleurs noter que la tempête, ou le tourbillon, selon les traductions qu'on utilise, c'est pas juste un effet pyrotechnique pour faire le show.
C'est pas juste du grand spectacle cosmique, hein.
Non, pas du tout. Dans la littérature de cette époque, au Proche-Orient ancien, l'arrivée d'une divinité, dans ce genre de phénomène, c'est un indicateur très classique de sa présence. Mais ça signale aussi un certain mécontentement.
Ah, genre une grosse perturbation dans l'air.
Exactement. Un agacement face à la tournure que prennent les événements. Ce que le docteur Walton relève super bien ici, c'est que la divinité refuse carrément d'entrer dans le cadre qu'on lui impose.
Dieu ne répond pas au serment d'innocence de Job, du coup.
Non. Il ne justifie pas non plus ses propres actions. Il y a un refus fondamental, presque catégorique, de jouer selon les règles du système de justice humain.
Mais c'est fou parce que c'est le seul sujet de conversation depuis le début de l'histoire. Hein.
C'est clair.
Job et ses amis ont passé littéralement tout leur temps à débattre de justice, d'équité, de qui mérite quoi. Si Dieu ignore le concept même de justice au moment le plus dramatique, ben, faut se demander de quoi il parle vraiment.
Et c'est là que le discours déplace entièrement le projecteur. Il le braque sur la complexité écrasante du cosmos. C'est là que se trouve le vrai nœud du problème.
Comment ça?
En fait, Job, tout comme ses potes qu'il contredisent sans arrêt, il fonctionnait selon un paradigme hyper rigide. Walton appelle ça le principe de rétribution.
Le principe de rétribution?
Ouais. C'est la lentille à travers laquelle il tentait de décoder absolument toute la réalité.
Alors, pour qu'on visualise bien, c'est un principe qui ressemble pas mal à l'idée populaire qu'on se fait du karma, non?
On peut faire le lien, oui.
Une équation un peu mathématique, genre le bien attire une récompense et le mal entraîne forcément une punition ou une souffrance.
La comparaison est super tentante, parce que la mécanique de base est la même. Mais il y a quand même une nuance cruciale à garder en tête.
Laquelle?
Dans la pensée antique, c'était pas juste une espèce de force cosmique aveugle qui gérait le truc. C'était la divinité elle-même qui était perçue comme le garant actif de cette balance.
Ah oui, c'est Dieu en personne qui fait les comptes, quoi.
Voilà. Et c'est hyper rassurant comme vision du monde. Ça donne l'illusion de comprendre parfaitement comment l'univers est structuré. Un monde bâti uniquement sur la justice.
Donc dans leur tête, l'équation est simple. Si Job souffre atrocement, il a forcément commis une faute atroce.
C'est mathématique pour eux. Et l'intervention de Dieu dans la tempête, elle vient précisément faire voler cette équation en éclats.
En montrant des trucs beaucoup trop complexes?
C'est ça. Il déploie des aspects de l'univers tellement immenses et lointains que l'intelligence humaine de l'époque pouvait même pas commencer à les capter.
L'intention de casser cette certitude est super claire. Mais y a un énorme problème qui se pose du coup.
Lequel?
Si le monde n'est pas fondé sur la justice et l'équité...
Il repose sur quoi?
Oui. Si on retire la justice comme pilier central, on frôle l'anarchie totale. C'est quand même hyper angoissant de se dire que la justice n'est pas la loi fondamentale de la réalité, non?
Mais c'est le vertige absolu auquel le texte nous confronte. Et pour surmonter ça, l'analyse de Walton nous propose d'adopter le cadre mental des anciens. C'est un vrai effort à faire.
Parce qu'on est trop conditionné par nos propres grilles de lecture.
Grave. Nous, les modernes, on est à fond dans les oppositions binaires. Le bien contre le mal, la lumière contre les ténèbres, l'être contre le néant.
C'est vrai, c'est très ancré.
Mais les anciens pensaient différemment. Walton introduit une grille de lecture en trois catégories pour piger la réalité cosmique. L'ordre, le non-ordre et le désordre.
Bon, décortiquons un peu tout ça. S'il ne s'agit pas juste d'une baston entre le bien et le mal, comment on applique ces trois catégories à la création ?
Le concept le plus bizarre pour nous, c'est carrément le non-ordre. Nous, on a l'habitude de percevoir tout ce qui n'est pas parfaitement structuré comme une anomalie ou même une menace.
Un truc mauvais, quoi.
Exactement. Mais dans les cosmologies anciennes, le non-ordre, c'est un état complètement neutre. C'est juste ce qui n'a pas encore été organisé.
Ce qui n'a pas encore reçu de fonction.
Voilà. Si on regarde les textes voisins de l'époque, par exemple le concept de Maat en Égypte, ou même les tout premiers versets de la Genèse.
Au tout début de la Bible.
Ouais. La création ne part pas de rien, du néant absolu. Elle part de ce fameux non-ordre. Les anciens prenaient souvent l'image de la mer déchaînée pour représenter ce potentiel brut. C'est indompté, mais c'est pas intrinsèquement mauvais.
Je vois. Pour rendre ça super concret pour ceux qui nous écoutent, Walton utilise une super analogie. C'est l'image du déménagement.
Ah oui, excellente métaphore.
Je la trouve tellement parlante. Quand on emménage dans une nouvelle maison, on dépose, je sais pas, une trentaine de cartons pleins en plein milieu du salon.
C'est le chaos total.
Ouais. À ce stade, rien n'est utilisable. La cuisine ne fonctionne pas, tu peux pas trouver tes bouquins. Eh bien, ces cartons fermés, c'est le non-ordre.
C'est ça.
Ils ont rien de maléfique ou de diabolique, ces cartons. Ils attendent juste d'être ouverts et organisés.
C'est exactement ça. La neutralité de l'état. Et pour continuer avec ton image, l'ordre, bah, c'est le processus inverse. C'est quand les cartons sont vidés, que chaque objet a trouvé sa place.
Quand la maison devient habitable et optimisée.
Voilà. Dans le langage de ces vieux textes, quand Dieu dit que la création est bonne, c'est pas du tout une déclaration de pureté morale absolue.
Ah, c'est pas un jugement moraux.
Non. C'est l'affirmation que le système fonctionne de manière optimale. Il a un but, une vraie structure. Et la pensée antique va encore plus loin.
Sur le rôle des humains, c'est ça, hein ?
Ouais. Elle considère que l'humanité a été créée pour agir comme des vice-régents, des partenaires de Dieu, pour repousser ce non-ordre et étendre l'ordre.
Ok, donc si je résume cette logique, l'ordre, c'est la maison rangée, le non-ordre, c'est les cartons fermés dans le salon, donc le désordre, ça peut pas être juste la poussière qui s'accumule sous le canapé.
Non, ça c'est trop passif.
Ce serait plutôt genre une inondation qui ravage tout ou quelqu'un qui met volontairement le feu à la maison.
L'analogie est parfaite. Le désordre, c'est une force de destruction active. Et là, c'est intrinsèquement mauvais. C'est une vraie menace contre l'ordre établi.
Son seul but, c'est de détruire ce qui a été structuré.
C'est ça. Et c'est là que la démonstration de Walton est géniale, parce qu'elle montre l'erreur fatale des personnages de l'histoire de Job. Ils ont fait une énorme confusion de catégories.
Ah, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ils ont confondu le non-ordre avec le désordre.
Exactement.
Ils ont cru que la souffrance de Job, toutes les tempêtes de sa vie, la perte de sa famille, ses maladies, c'était forcément une manifestation du désordre, donc du mal pur.
Voilà, un mal envoyé par un dieu punisseur.
Enferrés dans leur principe de rétribution, ils n'avaient que deux cases dans leur tête.
Soit c'est bien, soit c'est mal.
C'est ça. Soit Job était béni parce qu'il était juste, et ça c'est l'ordre, soit il subissait une action destructive parce qu'il était coupable, et ça c'est le désordre.
Et le texte, par la voix divine, vient leur dire « Eh oh, vous avez oublié la troisième case, le non-ordre ».
L'univers n'a pas été totalement purgé de son chaos naturel. Il reste des espaces sauvages.
Des cartons non déballés.
Ouais.
Le monde fonctionne avec cette immense complexité.
Par contre, je dois m'arrêter deux secondes ici. Parce que, intellectuellement, on est d'accord, c'est fascinant. Mais si on pousse l'idée dans la vraie vie, il y a de quoi être choqué.
Comment ça
Dire qu'une tornade qui détruit une ville ou une maladie mortelle, ça relève juste du non-ordre. Humainement, c'est super rude.
C'est vrai que ça paraît très froid.
Si quelqu'un perd tout en quelques jours, s'entendre dire que sa tragédie, c'est juste le chaos naturel d'un carton pas déballé par l'univers, ça frôle la cruauté, non ? Comment on gère cette froideur apparente ?
C'est une objection essentielle. Et ça touche vraiment au cœur de la difficulté de Job. Ce que Walton explique, c'est pas du tout que la souffrance est banale ou triviale.
Dieu ne minimise pas la douleur de Job.
Non. Mais il faut comprendre que la cosmologie ancienne voyait l'univers ordonné comme une sorte de bulle au milieu d'un océan de chaos brut. Le projet divin, c'est de maintenir et d'agrandir cette bulle. Mais le processus est en cours, c'est pas fini.
Donc la souffrance, c'est quand on se frotte au bord de cette bulle.
Exactement. Les tragédies arrivent aux marges, là où la nature brute n'a pas encore été pacifiée. Le but du discours de Dieu n'est pas de consoler Job avec une tape dans le dos.
C'est de le secouer, en fait.
Ouais, de briser son arrogance, son illusion de croire qu'il comprend tout. Dire que c'est du non-ordre, c'est lui signifier que sa douleur n'est pas le résultat d'un verdict personnel contre lui.
Ce n'est pas un juge qui tape avec son marteau sur la tête de Job.
C'est ça. La tragédie fait partie de la friction d'un monde en structuration.
C'est une sacrée nuance. Ça remplace complètement la culpabilité par le mystère cosmique.
Et pour imposer ce mystère, la méthode de Dieu, au chapitre 38, est d'une puissance assez rare.
Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une série de questions écrasantes sur la géologie, les réserves de neige, les demeures de la lumière. Et franchement, le ton semble chargé d'un sarcasme assez piquant.
C'est vrai que ça pique un peu.
Il y a un passage où Dieu dit un truc du genre « Tu le sais sûrement, car tu étais déjà né en ce temps-là, et le nombre de tes jours est immense. »
Ouais, le fameux verset 21.
Face à un mec en deuil qui gratte ses ulcères sur un tas de cendres, ça pouvait passer pour de la mesquinerie pure et dure de la part de Dieu.
C'est sûr que si on le prend au premier degré, ça a l'air super narquois. Mais l'analyse de Walton souligne qu'il faut lire ça comme un procédé littéraire.
Une figure de style.
Exactement. Très typique de la sagesse ancienne. L'auteur ne dépeint pas un créateur sadique qui prend plaisir à humilier un mortel en détresse. Il utilise le sarcasme pour marquer un contraste dramatique.
Pour créer un fossé entre les deux.
Voilà. Pour souligner l'abîme infranchissable entre gérer un écosystème à l'échelle de l'univers et la perception locale d'un petit humain. Le but, c'est de créer un vrai choc cognitif.
Et d'ailleurs, parmi toutes ces images destinées à le secouer, il y en a une, au verset 25 du chapitre 38, qui illustre ça à la perfection. C'est l'image de la pluie.
Ah, un passage clé, ouais.
Le texte évoque des trombes d'eau qui tombent dans un désert totalement inhabité, sur une terre aride où il n'y a absolument personne. Et quand on réfléchit avec leur fameux principe de rétribution, cette image fait dérailler toute la logique.
C'est un argument par l'absurde, redoutable. Dans l'esprit des gens de l'époque, dans des sociétés agricoles, la météo était vue comme le bras armé de la justice de Dieu.
Genre, il pleut, donc Dieu est content.
Voilà. Si la pluie tombe sur ton champ, c'est une récompense, parce que tu es quelqu'un de bien. S'il y a une sécheresse ou une inondation, c'est le jugement d'une faute.
D'où la puissance de cette simple question sur le désert. S'il pleut des cordes dans un désert où il n'y a pas le moindre humain, qui est récompensé?
Absolument personne.
Qui est puni?
Personne non plus. La pluie échappe donc totalement à leur équation morale.
C'est exactement ça. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ça prouve que le monde est infiniment plus vaste que notre petit bulletin de notes morales.
C'est une super façon de le dire. Le texte montre que la pluie a une fonction de fertilité dans la nature sauvage qui n'a rien à voir avec nous, les humains. Dieu montre qu'il peut utiliser la météo pour un jugement précis s'il le veut.
Mais que ça marche pas exclusivement comme ça au quotidien.
Exactement. La nature a ses propres raisons d'être. En démontrant ça, le discours prive Job de son cadre d'analyse erroné. Ça l'oblige à contempler son ignorance.
Et face à une telle argumentation, on voit bien au début du chapitre 40 que la réaction de Job est hyper viscérale. Il est terrassé. Il met littéralement la main sur sa bouche.
C'est le silence total.
Il admet qu'il est beaucoup trop insignifiant pour répliquer. C'est vraiment l'image d'un homme dont toutes les théories viennent de se cracher.
Et ce silence, c'est l'expression d'une humilité retrouvée. C'est une étape incontournable. Job capte enfin qu'il n'avait pas les compétences pour intenter un procès à l'univers entier.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, l'analyse rappelle que confesser son ignorance, c'est pas la fin de l'histoire.
Heureusement, non.
Ouais, parce que se résigner en disant « le monde est trop compliqué, on comprendra jamais rien », c'est stérile comme réflexion.
Donc, la mise au silence de Job, c'est juste une étape de nettoyage. On détruit les fausses croyances pour préparer le terrain à autre chose.
Tout à fait, et c'est pour ça que Dieu ne va pas s'arrêter là. Walton indique qu'un second discours va suivre, avec des figures étonnantes comme le Béhémoth et le Léviathan, pour offrir une perspective beaucoup plus positive sur les politiques divines. L'ignorance n'est qu'un sas de transition.
Alors, qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Quand on rassemble tous ces morceaux, on s'aperçoit que ça dépasse largement le cadre académique. C'est hyper actuel.
C'est sûr qu'on a tous ce réflexe en nous.
Mais oui. Face à un drame personnel, un accident, une maladie, la première pensée qui nous traverse l'esprit, c'est très souvent « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?»
On cherche le karma, la punition déguisée.
Voilà. On cherche une faute. Et comprendre, grâce à ce texte millénaire, que l'univers ne fonctionne pas comme un simple distributeur de récompenses et de punitions, c'est une libération immense.
Ça libère de la tyrannie de devoir toujours trouver un sens moral immédiat au chaos de la vie.
Exactement.
Et ça nous ramène à cette idée des humains créés comme vice-régents. si l'on accepte qu'une grande partie des drames de la vie ne sont pas des punitions mais simplement du non-ordre naturel, ça change tout.
C'est un changement de posture radical. Au lieu de s'épuiser à chercher des coupables imaginaires ou à scruter le ciel en attendant un verdict de justice qui ne viendra jamais,
on peut canaliser l'énergie différemment, ouais.
Si on porte cette vocation d'être les partenaires de Dieu pour organiser le monde, la question n'est plus pourquoi ce carton m'est tombé sur la tête.
Mais plutôt, comment on va ranger ça?
C'est ça. Comment, avec compassion, on peut ranger ce qui a été bouleversé?
Ne sommes-nous pas appelés à arrêter d'être les procureurs de l'univers pour devenir tout simplement des artisans du quotidien? C'est la question que ça pose à tout le monde.
C'est une réflexion finale vertigineuse. Une vision où le mystère ne nous écrase plus, mais nous redonne une responsabilité face aux tempêtes de l'existence. Ce sera notre mot de la fin pour cette exploration vraiment riche et renversante. C'est fou de voir à quel point ces concepts anciens continuent de bousculer nos certitudes d'aujourd'hui.
C'est la beauté de ces textes.
Absolument. À très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante dans la complexité de nos sources.